L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission, le magazine, module radiophonique qui se pose dans vos oreilles à midi et qui s'y rediffuse à 18h. La planète sur laquelle nous atterrissons, c'est la nôtre. La planète au sens très géologique du terme, la planète dans sa dimension roche et minéraux, avec quelques petits coins où cette dimension est particulièrement remarquable, intéressante pour nous les humains, pour comprendre le passé de la Terre. C'est le cas de notre parc naturel régional d'Armorique, de notre désormais géoparc, puisque c'est officiel. Après vous avoir abreuvé pendant plusieurs mois d'émissions sur la chaîne de montagnes hercyniennes il y a 350 millions d'années, le volcanisme de l'Ordovicien il y a 470 millions d'années, ou même le volcanisme de l'île d'Ouessant, après vous avoir raconté les gravures du rocher de l'impératrice à Plougastel, elles sont jeunes, elles ont un peu moins de 15 000 ans, après vous avoir raconté les origines de la quercentite ou de la pierre du rose à Logona, après vous avoir présenté les outils touristiques pour découvrir le patrimoine géologique du parc, nous sommes particulièrement heureux d'annoncer que le label Géoparc de l'UNESCO est attribué à notre territoire. Jérémy Bourdoulous, le chargé de mission patrimoine naturel, est avec nous pour en discuter. Bonjour Jérémy.
Bonjour Véronique.
Alors on va rappeler ce que représente une labellisation Géoparc UNESCO. Qu'est-ce que c'est ?
Alors l'UNESCO, tout le monde connaît l'UNESCO, c'est une instance internationale qui œuvre dans les domaines de la mise en valeur, la protection des patrimoines culturels de l'humanité, et puis aussi qui a des programmes scientifiques et éducatifs. C'est le cas des géoparcs. On ne se trouve pas dans le domaine du patrimoine culturel, des grands sites très touristiques. C'est vraiment une logique de développement durable. Les géoparcs mondiaux UNESCO, c'est ça.
C'est d'ailleurs plus récent le géoparc par rapport à la ville UNESCO.
Oui, les géoparcs fêtent leurs 20 ans, là. Donc, c'est une démarche vraiment récente. Il y avait, dans ce programme scientifique et éducatif, les réserves de biosphère, comme on a en mer d'Iroise, par exemple. Et là, les géoparcs se sont créés plus récemment. Ils ont pour but de valoriser l'histoire de la Terre, le patrimoine géologique. C'est vraiment nos racines, le substrat sur lequel on vit et on habite au quotidien. Qu'est-ce qu'on a sous les pieds dans les pierres qui forment nos maisons. Et donc, c'est une reconnaissance, ce label, en fait, de la richesse d'un territoire, donc à la fois la richesse scientifique, c'est quoi la richesse géologique qu'on a sous les pieds. On n'a pas une mais plusieurs roches, elles racontent une histoire qui est très étalée dans la durée, c'est un pan de l'histoire de la Terre qu'on peut voir en se baladant tout simplement sur le terrain.
Donc, dans notre cas, c'est quoi plus de 500 millions d'années qu'on peut voir,
c'est ça ? Alors, c'est plus de 500 millions d'années, ce qui est quand même pas si commun que ça en France. C'est un terrain qu'on appelle ancien, donc c'était des montagnes anciennes qu'on avait ici. D'abord, des fonds marins qui ensuite se sont transformés en chaînes de montagnes, comme tu l'expliquais. Et puis ensuite, la lente érosion jusqu'à aujourd'hui, puisque les sommets étaient beaucoup plus hauts. On dit que les sommets ici, c'était une altitude des grandes montagnes actuelles, soit de l'Himalaya, soit des Alpes, donc vraiment des grandes hauteurs. Et donc on voit toute l'érosion et toute la longue histoire qui a eu sur ce terrain.
Mais qui a de beaux restes. Et c'est un peu, j'imagine, ce qui a présidé à la décision de se lancer dans cette candidature, parce que c'est pas rien aussi une candidature UNESCO, c'est des années de travail, c'est ça ?
Exactement, on a lancé la démarche en 2017 et on voit l'aboutissement en 2024. Même si c'est une première étape, la labellisation, on n'a pas terminé le travail. Après, le géoparc, il existe effectivement depuis 2017. Là, on a la reconnaissance de l'UNESCO maintenant, mais on n'a pas attendu de cette reconnaissance pour le faire connaître, le partager et mettre en place des actions. Certes, il y a tout un travail de dossier, il faut accumuler des arguments scientifiques, il faut convaincre les partenaires locaux du territoire, des scientifiques de l'Université de Brest, des représentants associatifs, comme à la Maison des minéraux, comme au musée de la fraise et du patrimoine de Plougastel, pour se mettre ensemble et faire un projet qui a du sens. C'est pas juste une histoire de passé géologique, c'est comment on va le communiquer aux populations, aux habitants des communes, et puis aussi aux visiteurs, aux touristes. Il y a vraiment ces deux volets-là. Mais le géoparc, c'est pas quelque chose de figé. Voilà. Donc on a ce patrimoine géologique, et puis toute une vie autour, et c'est ça qui est intéressant dans le projet Géoparc, c'est pas un musée figé, c'est un projet de territoire qui appartient aux gens qui y vivent.
De territoire d'ailleurs un peu élargi, parce que C'était le parc plus quelques petites bords de parc, c'est ça ?
Ben, on peut redire un tout petit mot de l'histoire du périmètre. Il est quand même né en presqu'île de Crozon, parce que c'est là qu'en Bretagne, on a une grande connaissance de la géologie, liée à l'université de Brest notamment.
Et une réserve d'ailleurs,
géologique. Il y a une réserve qui vient valoriser tout ça, c'est la réserve géologique de la presqu'île de Crozon, réserve régionale qui a été créée il y a une dizaine d'années maintenant. On vient de fêter les 10 ans, qui est porté par la communauté de communes de la presqu'île de Crozon, donc qui était un des partenaires du Géoparc. Évidemment, cette réserve, c'est un socle de connaissances et de protection qui était une des bases du Géoparc.
Et donc, ça s'est étendu à des villes qui n'étaient pas dans le parc d'Armorique, enfin Plougastel notamment, parce que vraiment à Plougastel, il y a la pointe de l'Armorique, par exemple, avec des fossiles.
Et voilà, donc pour avoir un géoparc, il nous fallait des sites d'intérêt internationaux. Ça repose sur un inventaire qui a été fait par les scientifiques bretons à partir des années 90, qui ont identifié sur tout le territoire breton, et ça s'est fait après à l'échelle du pays, des sites de terrain qui avaient une reconnaissance, un intérêt à l'échelle internationale. Donc l'ensemble des sites de la presqu'île de Crozon avait une valeur internationale. Le site seul de la pointe de l'Armorique, qui est un récif de corail fossilisé à Plougastel, avait lui tout seul un intérêt international aussi. Et donc, c'est vrai que quand on a commencé le projet Presqu'île de Crozon, élargi à la rade de Brest jusqu'à la pointe de l'Armorique, ce qui nous a fait sortir du territoire du parc. On a contacté les maires de l'Opérette, de Dirinon, et puis de Plougastel et même de Landerneau pour une cohérence géologique, scientifique, mais aussi de patrimoine bâti. Hein, les pierres de la rade de Brest, pierres du Rose, Kersantite, elles étaient taillées dans les carrières à l'hôpital Canfrout à Logona, ensuite envoyées sur les quais à Landerneau pour du statuaire, etc. Il fallait que l'ensemble soit cohérent. Et puis ensuite, on est parti dans les Monts d'Arrée. C'était
qui
inévitable.
Qui était déjà dans le parc, là, pour le
et
coup.
Voilà.
Ouais.
Donc, qui était vraiment inévitable dans le géoparc, parce que c'est un paysage qui marque avec ses rochers, les rocs qu'on voit, et puis les sommets qui marquent dans le paysage cette géologie. Les landes, on n'a pas des landes qui poussent par hasard, ça veut dire qu'en dessous on a un substrat minéral qui est très spécifique, soit du grès armoricain, soit des schistes et quartzites qui donnent cette formation végétale qu'est la lande. On n'a pas d'autres endroits comme ça en Bretagne avec ces landes.
Et les Monts d'Arrée élargis à Huelgoat et ses chaos, hein, notamment aussi.
Effectivement, Huelgoat, c'est pareil, c'était aussi un incontournable du géoparc, cette formation de chaos qui est vraiment très spectaculaire, qui est aussi l'histoire du tourisme. Donc ça, c'est aussi intéressant dans ce qu'on peut raconter dans le géoparc. C'est pas juste un objet géologique, le chaos du Huelgoat, mais c'est un site qui a été visité de longue date et ça raconte l'histoire du tourisme en Bretagne. C'est super intéressant.
En tout cas, loin de la mer, de ce tourisme non côtier. Être labellisé géoparc, là, ça va nous apporter, je sais pas, de l'argent ou c'est juste du prestige? Qu'est-ce que ça apporte concrètement à un territoire d'avoir ce label? Enfin, même peut-être on peut faire référence aux autres territoires français qui sont labellisés, hein. Avant nous, quoi.
Oui, oui, oui. Alors, c'est vraiment une récompense. C'est ce que je disais, c'est la reconnaissance du travail qui est accompli depuis, on peut dire même une quinzaine d'années, en fait, quand les scientifiques ont fait les premiers inventaires sur le terrain, ils n'avaient pas tout de suite en tête la question du géoparc. Mais ça permet, à l'échelle internationale, de dire, là, il se passe quelque chose dans le domaine de la connaissance scientifique, dans le domaine de la sensibilisation à l'environnement, du lien avec les populations, sur cette question de l'histoire de la Terre. Et des géoparcs, il n'y en a pas partout. En France, on était 7 et on passe à 9 maintenant, avec aussi Normandie-Maine, qui a été donc reconnue en même temps que nous par l'instance de l'UNESCO. Et dans le monde, ça reste une petite communauté. Donc ça permet d'être identifié à l'échelle mondiale comme un site où on peut trouver des informations, on peut venir découvrir le territoire. Et puis c'est clairement une fierté locale pour tous les partenaires qui ont contribué à ce projet. Radio Évasion en fait partie. Vous avez suivi et communiqué ces informations depuis le début. C'est pas le projet du parc, c'est la fierté collective de tous de faire reconnaître nos patrimoines. Ça, c'est vraiment très important. Donc ça va pas amener des budgets là tout de suite. Par contre, cette reconnaissance, c'est un gage de qualité, de bonne gestion collective du territoire, et ça va vraiment aider à décrocher des financements, par exemple des financements européens. C'est un gage de qualité d'UNESCO. Donc ça effectivement, c'est un levier assez fort.
Oui, et puis ça a un effet protecteur. Enfin, on pourrait se dire, oui, mais alors ça va nous attirer des hordes de touristes. Mais en fait, non, parce que pour garder le label, il faut garder la qualité du territoire. Enfin...
Et oui, effectivement, le label, hein, il est évalué tous les 4 ans. Et un des points qui est regardé par les évaluateurs, on a, je crois, 250 ou 300 questions qui sont évaluées tous les 4 ans, c'est le territoire est-il dans un bon état. Donc si les sites sont trop abîmés, trop dévastés par le tourisme ou autre, c'est des mauvais points, effectivement. Il faut vraiment qu'on prenne en main la gestion de ces sites. C'est le cas en presqu'île de Crozon, où la communauté de communes prend en main la question de l'île Vierge, par exemple, avec le projet d'opération Grand Site, qui est en cours de montage, pour gérer les flux touristiques. Donc voilà. Après, le géoparc, il n'apporte pas de contraintes réglementaires à proprement parler, ça c'est un point important. Comme c'est un label, il vient apporter un tampon sur quelque chose qui est fait localement. Donc c'est pas l'UNESCO qui va nous dire comment le faire, c'est à nous de nous organiser localement, l'État, les communes, etc., pour avoir des sites protégés et qui ensuite peuvent faire l'objet de cette mise en valeur.
Pour revenir sur les étapes depuis 2017, alors c'était Noémie Courant qui venait régulièrement nous raconter. Est-ce qu'on peut refaire un petit résumé des grandes étapes de la labellisation Géoparc ?
Oui, y a 2 ans de travail pour constituer le dossier scientifique, jusqu'à 2019 en fait. Donc ça, c'est mobiliser les géologues locaux, accumuler tout un tas d'informations. C'est un dossier de 700 pages à peu près, le dossier de candidature UNESCO. Mobiliser les élus, les communes nouvelles qui étaient en dehors du parc, il a fallu leur présenter le projet, expliquer. Donc il y a un travail politique aussi. Trouver tous les partenaires qui, de près ou de loin, pouvaient être intéressés par cette question. La géologie, c'est pas forcément évident d'entrée. Donc il a fallu trouver les bonnes clés d'entrée pour expliquer, montrer l'intérêt que pouvait avoir la géologie et pourquoi s'intéresser à cette question qui est quand même assez abrupte.
Ouais, les cailloux, ça bouge pas, c'est pas aussi mignon que les bébés phoques.
Voilà, et puis c'est l'histoire, donc c'est statique. Or, en fait, quand on regarde notre histoire géologique, on voit qu'il y a eu plein de périodes climatiques différentes. Il y a eu des périodes où on était sous les tropiques, il y a des traces de récifs coralliens. C'est une aventure fantastique. Les enfants, ça leur parle de suite. C'est le boulot quotidien de la Maison des Minéraux. Et on voit que ça marche très bien. Quand on tient des stands sur des festivals ou autres, on voit bien que le public est très curieux de ça. Et ça amène quelque part une forme d'enthousiasme, en fait, de se dire, waouh, on fait partie de cette longue histoire. L'homme a connu aussi différents changements sur une période assez courte, mine de rien, sur ces 500 millions d'années. On est tout petit là-dessus. Ça permet de prendre du recul, de relativiser par rapport aussi à ce qu'on vit au quotidien. Et aujourd'hui, les géoparcs, dans pas mal de coins de la planète, sont dans des zones volcaniques. Notamment, on travaille beaucoup sur le risque sismique aussi. On était à Marrakech en septembre dernier pendant le tremblement de terre. Donc, ils sont aussi tournés vers l'avenir. Ça, c'est super intéressant dans les géoparcs. C'est tourné vers le futur, en fait.
Donc, voilà. Donc le dossier scientifique, la candidature politique et partenariale, donc voilà, avec, on les a cités, aussi bien des musées que des structures touristiques, voilà, ou des associations comme nous. Et puis voilà, puis après, on dépose le dossier, il y a une visite, c'est ça ?
Alors, avant la visite, il y a eu un premier passage, c'est l'évaluation par les 4 experts internationaux du patrimoine scientifique. Vraiment géol, pour le coup, là, c'était du pur jus géologique.
Qui venaient voir si c'était vrai, ce qu'avaient raconté les scientifiques, en gros, c'est
alors,
ça ?
Là, c'était sur dossier, ils ont regardé les publications, etc. Et on a eu 4 voix sur 4, ce qui est un bon score. Tout le monde n'obtient pas ce score-là. L'Armorique, c'est quelque chose de très identifié. Quelle que soit l'origine du pays de l'évaluateur, on voit où ça se situe sur une carte. Il y a une identité culturelle aussi qui est très forte, qui se connaît. Et donc, c'est un géoparc qui est
facile, quoi.
Voilà,
ouais.
C'est ça.
Ouais, on dépasse un peu, voilà. Okay.
Donc ça s'est passé, on était très contents. Et ensuite, la visite de terrain dans les conditions Covid un petit peu complexes qu'on a pu connaître. Et donc, on a deux évaluatrices qui sont venues passer une petite semaine sur le territoire. Voilà,
oui,
donc ça,
quand même.
C'était il y a quelques années maintenant, et qui ont fait des recommandations. Et elles nous ont notamment recommandé de travailler un petit peu plus certains aspects.
Ah oui, par exemple. Alors.
C'était rendre plus visibles les actions du géoparc, notamment pour les gens qui se promènent sur le terrain. On était encore un jeune projet, et par exemple, des panneaux d'interprétation. Des panneaux routiers, il fallait marquer sur le territoire et rendre visible le géoparc. Donc ça prend un petit peu de temps quand même. Et on s'est réunis avec tout un tas de partenaires pour voir ce qui pourrait être le plus pertinent. Ici, en Bretagne, il n'est pas question de mettre des panneaux partout. On ne veut pas défigurer nos paysages, ça n'a pas de sens. Donc on a défini vraiment de manière très précise des sites. On peut citer par exemple le belvédère de Rosnoen, qui est juste à côté du Fou ici. Ou comme homme, pour un visiteur qui arrive sur ce site, on s'est dit, là, ça serait bien de donner un peu d'informations sur ce paysage, avec le Ménéum, l'estuaire de l'Aulne qui est derrière, d'où ça vient. Voilà, c'est quelques petites infos comme ça. Donc on a 13 panneaux là, qui ont été produits là-dessus. C'est un petit chiffre, mais c'est un énorme travail de rédaction parce que les géologues scientifiques ont travaillé dessus, les experts du tourisme. Enfin voilà, il fallait que ce texte parle au plus grand nombre. Et puis on les a traduits aussi en anglais et puis en breton. Donc faut se creuser un peu les méninges pour avoir des textes condensés, mais en même temps que toute l'info soit dessus. Puis on a essayé de faire des jolis panneaux en plus, donc tant qu'à faire. Voilà, donc ça c'était un gros boulot qui a permis d'affiner en fait notre candidature. Et puis on a déposé un dossier de mise à jour, ça c'était l'été dernier, en 2023, qui a fait l'objet d'une analyse ensuite l'automne dernier, donc en septembre, lors du séminaire du fameux séminaire de Marrakech, voilà, où l'avis a été rendu. Donc ça, c'est l'avis du comité d'experts. Hein. Ce n'était pas encore l'UNESCO, c'est la communauté des géoparcs. On est auto-évalué dans le réseau mondial des géoparcs. Et on a reçu un avis très favorable à cette période-là déjà.
Et dans la candidature, les aspects sympas, c'était aussi que vous avez fait quand même quelques déplacements, hein, un peu partout dans le monde quasiment, non ?
Oui, effectivement, les géoparcs, ce n'est pas une logique franco-française, même si le concept il a été inventé dans les Alpes de Haute-Provence. Hein, dans le premier géoparc qui a été créé, c'était français, on peut être fier de ça. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de géoparcs anglo-saxons, en Europe du Nord, en Asie, en Amérique du Sud, les premiers aussi en Afrique. Et donc l'idée, c'était dès le départ d'être positionné dans cette logique internationale. C'est imposé par la communauté des géoparcs. On ne peut pas faire un géoparc tout seul dans son coin, ça n'aurait pas de sens. Et voilà, donc ça a démarré aux Açores, où on a rencontré l'ensemble des partenaires européens. Et on s'est inspiré un peu de leur manière de faire, des logiques des uns et des autres. Et notamment la volonté d'avoir une visibilité, c'était quelque chose qui ressortait très très fort sur le début du projet.
Oui, il y a eu des partenariats aussi avec la Cornouaille, je crois, la Baie de Somme, enfin aussi plus près.
C'est ça, on a monté des projets européens. Et puis, il y a un géoparc qui est né de cette collaboration avec l'Armorique, qui est transmanche entre le Kent en Angleterre, au sud de Londres, hein, c'est une zone très touristique, et puis le parc des Caps et Marais d'Opale. Donc ces deux projets qui étaient partenaires avec nous ont décidé d'en faire un seul à travers la Manche. C'était une aventure vraiment très intéressante parce qu'on était juste après le Brexit quand ça s'est produit. On était assez fiers d'avoir initié ce pont à travers la Manche. Et nous, en Bretagne, ça nous parle quand même, la collaboration avec les Anglais, même si elle a pu être tumultueuse par le passé. C'est nos premiers voisins, donc on aime bien bosser avec eux.
Il y a eu des difficultés, à part cette histoire de panneaux qui n'indiquait pas assez bien les sites. Est-ce qu'il y a eu des handicaps à surmonter?
Le handicap, en tout cas la difficulté de départ, c'était de raconter une histoire géologique qui soit vraiment accessible à tous.
Ouais, et vraiment, c'est la médiation scientifique, quoi. Ouais.
C'est ça. Mmh. Donc, dans plein de domaines, on arrive à le faire, en écologie, sur les plantes, sur les animaux, etc. C'est assez sensible. Et sur la géologie, il faut dire que c'est un peu ardu. On remonte sur plusieurs périodes climatiques, c'est un temps long, on n'est pas habitué du tout à parler de ça. Et quand l'évaluation géoparc a eu lieu, il fallait que notre présidente aussi puisse dire quelques mots sur l'histoire géologique du géoparc. Ce n'est pas une affaire de scientifique, hein, vraiment. On parle bien d'une histoire de la Terre, plus que de géologie, en fait. Hein. Et donc, faire travailler les scientifiques là-dessus, notamment Martial Caroff, Bernard Le Gall, pour avoir un discours de plus en plus accessible à tous, ça demandait bien quelques années de travail. On a fait un petit livret qui reprend toute cette histoire géologique, qui est encore un petit peu ardue. Il y a des planches de BD aussi. On a fait un petit film qu'on peut retrouver à Ménesmeur. Donc, on cherche par plein de médias, en fait, à raconter cette histoire de la Terre.
Il y a eu de la valorisation numérique aussi, la réalité augmentée, je crois, c'est ça.
C'est un projet qui est en cours avec Plougastel, qu'on va reprendre, je pense, dans les années qui viennent, notamment autour du Rocher de l'Impératrice. On aimerait montrer un peu comment se passait la vie. Pour l'instant, voilà, c'est un projet qui n'est pas encore sorti. Donc, voilà.
Ben oui, on en a fait une émission quand même il y a quelques temps. Ça y est, le label est attribué. Qu'est-ce que ça suppose comme travail dans les années à venir déjà ?
Alors, dans les années à venir, il faut revenir vers les acteurs du territoire, qui sont les premiers ambassadeurs du Géoparc. Il y a tout un tas de personnes qu'on a rencontrées, par exemple, dans les formations du Géoparc qu'on mène chaque année, qui peuvent être des guides de visite de nature, qui peuvent être un propriétaire d'une ancienne carrière à Logona. Vraiment une communauté de personnes de statuts divers, privés, publics, individuels, pour retravailler avec eux, leur redonner les éléments sur l'histoire géologique, recroiser leurs projets. Par exemple, Paul Kerberiou aimerait faire des visites à la carrière de Logona. Ça demande qu'on l'appuie là-dessus sur les conditions d'ouverture d'une carrière au public, ce genre de choses. Donc c'est, voilà, montrer par les acteurs des nouveaux sites à visiter, en tout cas sur le territoire. Ça, c'est un axe important. Continuer du coup de sensibiliser les populations, les écoliers. Là, cette année, on a un appel à projet scolaire. C'est des choses qui peuvent se reproduire dans la durée, où on accompagne des écoles du territoire sur ce sujet-là. On a aussi produit un kit pédagogique avec une lithothèque, une bibliothèque de roche. Il y a tout un tas d'outils pour les écoles, avec des microscopes, des loupes binoculaires et tout ça. Donc il va falloir faire vivre tout ça, le faire diffuser au maximum. Et puis proposer, ça c'est sur du plus court terme, notamment des visites de sites. Parce que là, cette année, on est dans la célébration, ça va être vraiment ça qu'on veut marquer. Après ces années de travail sur la candidature, et donc on va proposer un grand programme d'animation plutôt estivale, printemps-été cette année.
Alors allons-y, on peut peut-être en dévoiler quelques-unes de ces programmes.
C'est un petit peu tôt, parce qu'on est en train de collecter en ce moment toutes les animations. On va vers nos partenaires, différentes associations particulières ou autres. Mais ça, on pourra te les donner lors du Festival du Centre de la Terre. C'est là qu'on va lancer en fait, la programmation des animations 2024 du Géoparc.
Alors, c'est à la mi-mai, le Festival du Centre de la Terre, c'est ça ? 17 ou 19 mai ?
Oui, dans ces eaux-là.
Et la radio y sera, de toute façon, pour faire des belles émissions également. Sur la valorisation du territoire, est-ce qu'on peut dire un mot des dernières actualités, des panneaux notamment ? Qu'est-ce qui a été implanté ? Qu'est-ce qui le sera ? Et puis, il y a eu aussi une chose dont on n'a pas parlé, mais la scénographie du Ménesmeur géologique, dont on avait parlé, mais il y a longtemps. On peut en redire un mot, peut-être.
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, les panneaux d'interprétation, on peut citer celui du belvédère de Térénès, à Rosnoën, qui est tout près du pont, sur l'estuaire de l'Aulne, et qui présente ce paysage magnifique là, de la vallée de l'Aulne. Ça, c'est un premier panneau qui a été posé. On a celui du Helgoat, de la forêt du Helgoat, qui est à l'entrée du chaos. La commune avait vraiment envie d'avoir une information de qualité à l'entrée, donc on a proposé ce panneau, qui est en belle place sur le site. On va avoir toujours à Rosnoën le belvédère de Rosnoën, pour le coup, qui fait face au Ménésome. Ensuite, on va aller sur la rade de Brest avec Logona, donc à la pointe du château, sur le site du Rose aussi. Donc ça, c'est pour les pierres de la rade.
Rose,
voilà,
ouais.
C'est ça. On va avoir aussi le roc Trévézel. Donc ça, ce sera dans le courant de cet été. Le roc Très du Don. Voilà, des grands sites comme ça. Qui sont éparpillés un peu partout sur le territoire. Un peu moins en presqu'île de Crozon, parce qu'il y avait déjà ceux de la réserve naturelle géologique qui sont très bien faits. D'ailleurs, on s'est inspiré pour que ce soit cohérent. C'est un petit peu la même chose.
Et à Ménesmeur, donc, la scénographie a été refaite récemment.
Oui, on l'a inaugurée l'été dernier, la nouvelle scénographie de Ménesmeur, pour intégrer cette dimension d'histoire de la Terre et du géoparc dans toute l'histoire qui était plutôt présentée sous l'angle de la biologie et puis de l'homme. On a pu intégrer des frises géologiques, un film immersif qui est vraiment chouette là, dans la salle de cinéma pour vivre un petit peu ces 500 millions d'années en quelques minutes à peine. Voilà, puis toujours les super rondos, les balades sur le terrain à Ménesmeur qui immergent en fait, les visiteurs au sein de ça. Voilà. Donc, tout ça, on va pouvoir retrouver cette programmation d'animation et puis aussi les autres éléments de découverte comme Ménesmeur sur le site internet du parc et puis du géoparc où on aura cette programmation qui va être mise à jour aussi en continu. Voilà. Donc, on espère avoir plein de belles choses là, à proposer dans les semaines qui viennent.
Les chercheurs, ils ont fait leur dossier au début du lancement de la démarche, mais en fait, ils cherchent toujours. C'est ça qu'il faut dire. Hein. La recherche ne s'est pas arrêtée sur le géoparc.
Alors la recherche, elle existait déjà sur le territoire du géoparc. Il y en avait beaucoup plus il y a très longtemps, des décennies en fait. Et puis les géologues sont aussi beaucoup partis sur des terrains à travers le monde. Et via le géoparc, certains sont revenus sur leur terrain d'origine. C'est le cas de Martial Caroff, ou Bernard Le Gall, qui sont vraiment très impliqués dans le géoparc, qui ont travaillé sur des roches comme la quercentite ou la pierre du rose, et qui racontent en fait des moments dans l'histoire de la création du massif armoricain. Donc oui, le géoparc doit contribuer à l'évolution de la connaissance scientifique. On doit faire preuve tous les 4 ans de publications scientifiques de niveau 1, ça veut dire d'échelle internationale, donc des choses quand même très costauds et sérieuses. Et sur cet aspect-là, on était vraiment bien avec l'université de Brest là, qui appuie les chercheurs. Et il y a aussi tout le travail qui est coordonné par Muriel Vidal à l'échelle de la réserve géologique. Donc on a la chance d'avoir toujours une communauté de chercheurs brestois, entre autres, hein, mais qui s'impliquent dans cette logique.
Très bien, on tend l'oreille. Merci beaucoup, Jérémy. À bientôt.
Merci beaucoup à Véronique.
Dans un instant, la deuxième partie de l'EM avec le géoparc encore, mais vu par les scientifiques.